Bonsoir Jean Lebrun, bonsoir à tous. Suite et fin ce vendredi d'une semaine sur le stoïcisme dans les nouveaux chemins de la connaissance. Après Emmanuel Naya, venu vous parler de Sénèque, Frédéric Ildefonse, venu vous parler d'ancien stoïcisme, après Thomas Benatwil, venu causer d'Épictète et donc de Marc Aurèle, après Jean-François Balaudet, venu distinguer le stoïcisme de l'épicurisme, c'est Pierre-François Moreau, l'homme qu'on surnomme PFM quand on parle de lui dans son dos, que les nouveaux chemins de la connaissance accueillent avec joie et qui vient ce soir nous parler de la différence entre stoïcisme et Spinoza. Ne vous y trompez pas, chers auditeurs, le but des nouveaux chemins de la connaissance n'est pas de vous farcir la tête avec l'histoire des idées, ou plutôt si nous le faisons rien qu'un peu et de temps en temps, c'est parce que derrière ces grands débats entre des titans de la pensée se nouent les réponses aux questions qui hantent peut-être votre quotidien. Pourquoi se suicider? Comment ne pas se suicider? Comment vivre sans être hanté par la peur de mourir? Faut-il rechercher les honneurs? Peut-on s'en passer? Comment s'enrichir sans le faire aux dépens de la richesse véritable mais impalpable, de la sagesse toute nue? Autant de questions que les philosophes se posent et que nous reposons sans répit en vous parlant de ceux qui les agitent. La puissance de l'homme est extrêmement limitée et infiniment surpassée par la puissance des causes extérieures. Et par suite, nous n'avons pas le pouvoir absolu d'adapter à notre usage les choses qui sont en dehors de nous. Et pourtant, c'est d'une âme égale que nous supporterons ce qui nous arrive en contradiction avec ce qu'exige la règle de notre utilité, si nous sommes conscients du fait que nous nous sommes acquittés de notre tâche, que la puissance que nous avons n'est pas allée jusqu'à nous permettre de l'éviter, et que nous sommes une partie de la nature tout entière dont nous suivons l'ordre. Si nous comprenons cela clairement et distinctement, cette partie de nous qui se définit par l'intelligence, c'est-à-dire la meilleure part de nous, y trouvera une pleine satisfaction et s'efforcera de persévérer dans cette satisfaction. Bonjour Pierre-François Moreau.
Bonjour.
Bonjour, grand bienvenue au Nouveau Chemin de la Connaissance et sur France Culture. Vous enseignez la philosophie, pour ceux qui l'ignorent, à l'École Normale Supérieure des Lettres et Sciences Humaines, LSH, de Lyon. Et vous co-dirigez au PUF la collection Philosophie. C'est sous votre houlette, toujours au PUF, que sont reparues les œuvres complètes de Spinoza. Pierre-François Moreau, le texte que je viens de lire, contrairement aux apparences, n'est pas d'Épictète ni de Marc Aurèle, mais de Spinoza, justement. C'est un texte dont certains disent qu'il est authentiquement stoïcien. On est à la fin de la quatrième partie de l'éthique. Et effectivement, à lire Spinoza, on se dit qu'il doit en tout cas beaucoup au stoïcisme, sans pour autant s'y réduire.
Oui, c'est un texte qui sonne incontestablement stoïcien. Et quand on le regarde de près, il est lié par toute une série de liens avec d'autres textes de Spinoza, avec toute une série de concepts et de notions de la pensée spinoziste qui font penser irréductiblement au stoïcisme quand on les lit. Et pourtant, effectivement, Spinoza n'est pas stoïcien. C'est-à-dire qu'il y a là deux systèmes de pensée qui, sur certains points, arrivent à coïncider localement, à faire éventuellement relier entre eux une série de lieux théoriques, mais qui néanmoins sont mus par des principes de pensée profondément différents.
Alors voilà, restons un instant sur ces coïncidences locales, parce que ça sonne stoïcien. La géographie peut-être elle aussi est stoïcienne. Quand je parle de géographie ici, je veux dire que Spinoza, comme les stoïciens, peut-être encore davantage, l'un comme l'autre, l'un comme les autres, du côté de l'immanence, de l'unicité du monde, d'un monde sans au-delà.
Oui, on entend dans ce texte et dans ceux qui vont avec l'idée que nous sommes une part de la nature, que Dieu c'est la même chose que la nature, encore faut-il comprendre comment, mais aussi bien chez les stoïciens que chez Spinoza, on peut quand même arriver à donner un sens à cette formule. Il y a aussi une idée commune aux deux qui est d'accepter finalement le monde tel qu'il est et de ne pas regretter ce qui nous arrive, ce qui chez les stoïciens se se dit l'amor fati, l'amour pour le destin.
Alors l'amour pour le destin, expression qui sera reprise par Nietzsche ensuite.
Oui, hein. Mais qu'on ne retrouve pas chez Spinoza, et pour cause. Au fond, chez Spinoza, nous comprenons que le monde est ce qu'il est parce qu'il a des lois, mais ce que nous aimons, la plus grande partie, la partie supérieure de notre âme, ce que nous aimons ne consiste pas dans le monde lui-même et le destin, mais dans notre connaissance du monde. Quand le monde nous écrase, ce qui finit toujours par arriver, puisque nous ne sommes qu'une partie et que nous rencontrons forcément une partie plus forte que nous, quand le monde nous écrase, nous n'aimons pas le destin qui nous écrase, nous aimons la connaissance que nous en avons, ce qui n'est pas du tout pareil. Il n'y a pas de résignation chez Spinoza, il y a un éloge de la connaissance destructeur de la nature.
Sur la base donc de cette différence essentielle qui est, dans un cas, il s'agit d'aimer le monde, dans l'autre cas, il s'agit de développer l'amour par la connaissance que nous avons du monde.
Oui, et non pas l'amour du monde. Mais effectivement, aimer la connaissance que nous avons du monde, ça implique aussi de ne pas avoir de nostalgie, d'attitude satirique à l'égard de ce que nous n'aimons pas, de reproches à l'égard de ceux qui ne sont pas comme nous, etc. etc. Il y a bien, chez Spinoza, non pas un amour du cours du monde tel qu'il est, mais une reconnaissance de la réalité, de l'effectivité du monde, et le refus de le condamner ou de l'espérer en fonction de choses qui seraient des idéaux qu'on imposerait à lui de l'extérieur.
En somme, est-ce qu'on peut pointer peut-être deux différences à ce moment-là entre Spinoza et les stoïciens, deux différences qui d'ailleurs se tiennent la main ? Dites-moi ce que vous en pensez. D'un côté, l'idée d'une téléologie, c'est-à-dire d'un discours finaliste, en somme, à l'œuvre dans la nature. C'est un discours qu'on retrouve chez les stoïciens et qui, en revanche, ne se retrouve pas du tout chez Spinoza, puisque Spinoza, non seulement ne reconnaît pas cette téléologie à l'œuvre dans la nature, mais surtout, il fait la généalogie de l'illusion qui nous vaut de croire que la nature a une destination. Donc, première différence, dans un cas, le monde a un but ou un sens, en tout cas, dans l'autre, il n'en a pas, en tout cas, pas au sens où on l'entend ordinairement. Et puis, deuxième différence, peut-être, et peut-être les deux se tiennent-elles la main, l'idée que les stoïciens préservent, je pense notamment au suicide dont on reparlera tout à l'heure et dont Spinoza dit pique-pendre alors que les stoïciens en font l'éloge, le fait que les stoïciens préservent ce qu'ils appellent la faculté de choisir, c'est-à-dire en somme le libre arbitre, alors que Spinoza, là encore, en déconstruit l'illusion comme relevant de l'ignorance des causes réelles qui nous font agir.
Oui, il faut bien voir que chaque fois que Spinoza parle des stoïciens, c'est pour en dire du mal. Ça n'est pas la preuve qu'il est très éloigné d'eux, parce que parfois, justement, on ne prend pas la peine de critiquer ceux qui sont très loin, parce que ça ne vaut pas le coup, et on critique au contraire ceux qui sont proches. Mais je crois quand même que les points sur lesquels il les critique sont des points tout à fait nodaux, tout à fait axiaux dans sa pensée. C'est-à-dire, d'une part, comme ça vient de se dire, la téléologie, le finalisme, qui pour lui est le centre de toutes les illusions que peuvent avoir les hommes. Alors, en quoi ça consiste, le finalisme ? Ça consiste au fond à croire que le monde est fait à notre usage, et qu'il a été fait à notre usage par des dieux qui nous ont fait à leur usage.
Ça, c'est Spinoza qui raconte cette illusion dans l'appendice de la première partie de l'éthique.
Et effectivement, autant les stoïciens critiquent toute une série d'illusions propres à la religion gréco-romaine, autant ils sauvent l'essentiel de cette religion, au fond, par l'interprétation métaphorique des divinités, dans ce qu'il faut bien appeler une sorte de finalisme généralisé.
Alors, Pierre-François Moreau, on va venir justement à la deuxième partie, à cette question du libre-arbitre, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je vous propose, gardez en mémoire la deuxième partie de la réponse. On va entendre tout de suite l'auteur du premier Que sais-je sur les stoïciens, Jean Brun, qui en 1979, répondant à Philippe Nemo, revient justement sur la notion de destin chez les stoïciens, pour que les auditeurs aient bien en tête finalement ce que les stoïciens entendent quand ils parlent de providence. Écoutez.
Ce destin est providentiel. C'est peut-être, en pesant bien mes mots, la première fois dans l'histoire de la pensée grecque que le destin est donné comme une forme de l'amour et non pas comme l'expression d'une puissance tout à fait gratuite, inexplicable aux hommes. Le destin ici est conçu comme ce qui fait les hommes et non pas comme ce qui leur est hostile. Dans la mesure où le monde est un vivant, où Dieu, qui est aussi le monde, est un vivant, et dans la mesure où l'homme est lui-même un vivant, On peut dire que la sagesse humaine consiste à mettre la vie de l'homme en harmonie avec celle de la nature. Et par conséquent, à ne pas s'isoler comme une île dans la mer, il faut participer à la vie cosmique, ne faire qu'un avec elle. Il faut que les tensions intérieures qui constituent les individus soient en véritable syntonie et non pas en opposition. Par conséquent, la sagesse consistera à participer à la vie du monde, c'est-à-dire, en dernière analyse, à la providence.
Pierre-François Moreau est ce vendredi l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance pour clore une semaine sur le stoïcisme et on revient sur la différence, les différences essentielles à comprendre entre la pensée stoïcienne et la philosophie de Spinoza en sa compagnie. On vient d'entendre Pierre-François Moreau, Jean Brun, parler de la providence chez les stoïciens, de parler d'un amour qui fait les hommes du monde comme d'un vivant et d'une sagesse qui consiste à se mettre en harmonie avec une nature dont on postule qu'elle a un sens. Est-ce que la différence ne vient pas du fait que chez Spinoza, d'une certaine façon, on est d'emblée en harmonie avec la nature, ou en tout cas, il s'agit d'y être, sans postuler que le monde a un sens ou une destination.
Oui, l'idée d'harmonie ici va tout à fait avec l'idée de providence. C'est parce que la providence nous assigne des fins que nous devons nous conformer à ces fins, donc nous mettre en harmonie avec la nature. Évidemment, ça c'est une idée qui n'est pas spinoziste du tout, parce que pour Spinoza, notre rapport avec la nature n'est pas un choix. Nous n'avons pas du tout à nous mettre en harmonie avec quoi que ce soit, nous sommes mus par les lois de la nature, que nous le voulions ou non. Bien entendu...
Donc il n'y a pas d'espèce d'injonction morale qui consisterait à dire « vivez en harmonie avec ». De toute façon, dirait Spinoza, vous n'avez pas le choix.
De toute façon, on n'a pas le choix. Simplement, on peut vivre suivant des lois externes ou des lois internes, c'est une autre question, mais il n'y a pas du tout, pour nous, une injonction à nous mettre en harmonie avec la Providence, tout simplement parce que la Providence n'existe pas. Ça, c'est une première chose. Et alors, effectivement, l'autre côté, l'autre aspect, c'est que pour que nous puissions décider de nous mettre en harmonie avec la Providence, il faudrait que nous puissions décider quelque chose. Donc ça, c'est la deuxième grande ligne de fracture avec le stoïcisme. Les stoïciens en prennent bien à leur aise avec les nécessités aux yeux de Spinoza. C'est-à-dire que pour eux, la nécessité gouverne le monde, sauf sur un point. Et en ceci, pour Spinoza, ils sont tout à fait des prédécesseurs de Descartes. C'est-à-dire que pour eux, nous échappons à la nécessité. Nous échappons, nous sommes une espèce d'îlot qui possède une liberté de s'opposer aux lois de la nature ou de se mettre en harmonie avec elle. Nous possédons donc une faculté de ce que Spinoza appelle, d'un terme politique, l'imperium sur nos passions, c'est-à-dire de gouvernement absolu de nos passions. Et cela, au fond, ne dépend que de nous. Donc, quand Spinoza à la fois fait l'éloge de Descartes, parce que Descartes a analysé les passions humaines, mais lui reproche d'avoir cru que nous pouvions avoir un gouvernement absolu sur elle, à ses yeux, Descartes ne fait que répéter l'erreur des stoïciens.
Juste une chose, Pierre-François Moreau, Jean Brun disait tout à l'heure, il le disait en 79, et on l'a entendu tout à l'heure, c'est la magie de la radio, il disait qu'il convenait pour les stoïciens de ne pas s'isoler, de participer à l'ordre de la nature. Il n'y a pas chez les stoïciens, il y a toujours chez les stoïciens la critique d'un tempérament insulaire tel que par exemple Descartes pourra en livrer la formule quand il reconstruira le monde par inspection de l'esprit ou quand il fera valoir la toute-puissance finalement d'une liberté humaine ou l'infinité de la volonté humaine contrairement à l'entendement. De sorte que, et là les rapports entre Descartes et les stoïciens sont très complexes, mais il y a quand même chez les stoïciens l'ambition pour le coup avant l'heure anti-cartésienne de ne pas se séparer du monde.
Oui, mais je dirais que l'opposition sur ce point entre cartésianisme et stoïcisme, c'est une opposition à l'intérieur d'un continent dont Spinoza est très éloigné. Parce que, aux yeux de Spinoza, on n'a pas le choix entre s'isoler du monde ou bien se rapprocher du monde. De toute façon, on est dans le monde. Une des formules qu'il répète le plus souvent, c'est « la nature est une et la même ». Alors que la nature soit une et la même, ça veut dire que ce sont les mêmes lois de la nature qui régissent nos affects ou qui régissent la chute des corps, ou qui régissent les lois de la biologie, même si le terme n'existe pas à l'époque.
Donc ce sont les mêmes lois de la nature qui régissent toute chose.
Et c'est une illusion de croire que nous pouvons soit nous en rapprocher, soit nous en éloigner. C'est une illusion de penser que nous en sommes éloignés, et c'est une nostalgie inutile de penser que nous pourrions y revenir, parce que nous n'en sommes jamais partis.
En somme, il y a chez Spinoza l'idée que nous ne sommes pas un empire dans un empire, hein, c'est lui qui le dit.
Oui, plus exactement, enfin, il dit, alors là je retraduis la formule imperium imperio, nous ne sommes pas un État dans l'État, c'est-à-dire exactement le terme imperium qu'il utilise pour désigner ce que les stoïciens croient concernant le gouvernement des passions.
C'est-à-dire
ben, il dit, les stoïciens croient que nous avons un imperium sur nos passions. Et en général, l'idéologie du finalisme croit, ou du libre-arbitre croit que nous sommes un imperium dans un imperio, c'est-à-dire un État dans l'État. C'est intéressant de voir que Spinoza utilise toujours un lexique politique quand il s'agit de critiquer les stoïciens. Au fond, ils ont, en métaphysique, en psychologie, en morale, l'illusion qui consiste à imaginer un royaume indépendant au milieu d'un monde où c'est devenu impossible, où ça a toujours été impossible.
Rien ne se fait dans la nature que l'on puisse attribuer à un vice de celle-ci. Car la nature est toujours la même, et a partout une seule et même vertu et puissance d'agir, c'est-à-dire les lois et règles de la nature selon lesquelles tout se fait et passe d'une forme dans une autre, sont partout et toujours les mêmes, et par suite, il doit y avoir également qu'une seule et même façon de comprendre la nature des choses, quelle qu'elle soit, à savoir par les lois et règles universelles de la nature. Et donc, les affects de haine, de colère, d'envie, etc., considérés en soi, suivent les uns des autres par la même nécessité et vertu de la nature que les autres singuliers. Et partant, ils reconnaissent des causes précises par lesquelles ils se comprennent et ont des propriétés précises, aussi dignes de notre connaissance que les propriétés de n'importe quelle autre chose qui nous charme par sa seule contemplation. Je traiterai donc de la nature des affects et de leur force, et de la puissance de l'esprit sur eux, suivant la même méthode que j'ai utilisée dans ce qui précède à propos de Dieu et de l'esprit, et je considérerai les actions et appétits humains comme s'il était question de lignes, de plans et de corps. Pierre-François Moreau, on est là au début de la troisième partie de l'éthique, quand Spinoza donc parle des affects. Il y a quand même, chez Spinoza et les stoïciens, l'ambition commune que la connaissance conduite à la libération, qu'on ne se libère pas tant de nos passions par une guerre civile entre la raison et le corps, que par une intelligence au sens fort, une bonne compréhension finalement.
Oui, mais Spinoza passe aussi son temps à dire que la compréhension ne suffit pas. C'est-à-dire que même dans un premier temps, la compréhension peut rendre malheureux parce que dans une situation où la raison commence à se développer et où elle n'est pas encore assez forte pour vaincre les passions, l'homme qui commence à être raisonnable est plus malheureux que l'homme purement passionné. L'homme purement passionné se sent impuissant et déchiré parce qu'il est déchiré par ses passions.
L'homme qui commence impuissant quand les passions vont contre lui. Hein. Il se sent très puissant.
Les passions
vont
en deux sens différents, ouais. Tout simplement. À la fois, je sais pas, il peut désirer de l'argent, désirer le pouvoir. Il faut choisir entre les deux, abandonner de l'argent pour avoir le pouvoir. Bon. Quand il commence à être rationnel, en outre le déchirement qui est dû à l'opposition entre les différentes passions, il y a le déchirement qui est dû à l'opposition entre raison et passion et à l'impuissance de la raison face aux passions. Donc, en un sens, sur la formule biblique, qui augmente son savoir augmente sa douleur, ce qui n'est pas véritablement une formule stoïcienne. Mais ici, alors ça vaudrait la peine de se demander de quoi est faite la culture de Spinoza. Parce qu'après tout, quand on lit ce texte qui a l'air si unifié, si homogène, on se rend compte que Spinoza fabrique sa pensée avec un certain nombre de matériaux. Et ces matériaux, ils ne viennent pas de nulle part. Il la fabrique lui-même, il la construit petit à petit de façon de plus en plus cohérente. Mais cette cohérence, il l'organise à partir de ce qu'il trouve sur son chemin. Alors, ce qu'il trouve sur son chemin, c'est quoi? C'est d'une part une culture biblique, d'où il tire par exemple cette formule que, qui augmente son savoir, augmente sa douleur. Donc, une pensée où, en un sens, la connaissance ne suffit pas pour le salut.
C'est la aussi, connaissance, j'allais dire la connaissance toute seule, la connaissance envisagée dans le selon l'angle spécieux d'une séparation radicale du corps et de l'esprit. Car finalement, la connaissance chez Spinoza, elle est d'abord activité et elle est aussi retour à une forme d'harmonie du corps et de l'esprit. Peut-on dire ça?
Harmonie, j'hésiterais. C'est un terme.
Oui,
qui,
le terme,
pas
José,
beaucoup,
le terme ne vous plaît pas. Oui.
En tout cas, effectivement.
Concordance.
Concordance, si on veut. Mais il y a ça d'un côté. Il y a aussi une culture cartésienne, parce que s'il prend la peine de quitter Descartes, c'est aussi qu'il lui doit beaucoup, dans la mesure où chez Descartes, on trouve cette culture des lois de la nature, sauf que Spinoza l'étend infiniment plus que ne le fait Descartes, il l'étend jusqu'au domaine de la pensée. Et puis, il y a un rapport à la culture antique, et je crois que c'est ça qui explique cette consonance stoïcienne de certains passages, comme ceux qui étaient cités au début, c'est que Spinoza, c'est quelqu'un qui, à mon sens, connaît très mal les philosophes antiques, mais qui connaît la littérature antique. Bon, Spinoza ne sait pas le grec, donc il n'a pas lu Platon, il n'a pas lu Aristote pour l'essentiel. Il a dû en lire peut-être quelques traductions, mais ça ne l'intéresse pas énormément, ça lui paraît très loin de lui. Il a lu bien plus tôt les poètes, les historiens latins, et quelqu'un qui est au confluent de la philosophie et de la littérature, à savoir Sénèque. En réalité, si on se demande qu'est-ce que Spinoza connaît du stoïcisme, la réponse, c'est Sénèque. Et ce qu'il a lu de Sénèque, c'est très probablement les lettres à Lucilius, c'est-à-dire justement une discussion entre quelqu'un qui commence à se retourner vers la sagesse et celui qui lui donne des conseils. Sauf que chez Spinoza, c'est le même qui joue les deux rôles. Quand on regarde le traité de la forme de l'entendement, c'est un traité où on voit quelqu'un, un narrateur, qui se demande comment il va faire pour se rapprocher peu à peu du souverain bien, pour se rapprocher peu à peu d'un bien véritable. Et il ne peut compter sur personne d'autre que sur lui-même pour lui donner des conseils pour y arriver.
Alors justement, Pierre-François Moreau, vous citez le traité de la réforme de l'entendement. C'est un passage dont on se sert beaucoup au nouveau chemin de la connaissance, tant il est exemplaire finalement d'une démarche proprement philosophique. Dans les 11 premiers paragraphes du traité de la réforme de l'entendement, Spinoza pose effectivement qu'il y a, alors je ne sais pas, on ne s'entend pas sur la traduction, les faux biens, les demi-biens, les biens provisoires, peu importe, l'honneur, la gloire et la lubricité, l'honneur, la richesse et la lubricité. Bon, et il dit...
Le plaisir, pas la lubricité. Bon, ça peut être d'autres sortes de plaisir. Que...
On est d'accord.
Ça peut être la nourriture.
Ça peut être la nourriture, absolument. Si tant est que la nourriture ne soit pas une affaire de lubricité. Mais là n'est pas le débat. Spinoza pose ces trois éléments-là comme autant de biens provisoires dont l'obtention est facile, mais dont la nature de bien est incertaine. Par différence avec un souverain bien dont la nature de bien, elle, n'est pas douteuse, mais dont l'obtention est beaucoup plus difficile. Et alors Spinoza, dans le traité de la réforme de l'entendement, dit à un moment, et ça c'est bouleversant, il dit « J'avais beau percevoir tout cela très très clairement, me représenter tout cela avec parfaite lucidité.
Ça marchait pas.
Mais je n'en désirais pas moins les honneurs, les plaisirs donc, et la richesse. » En somme, chez Spinoza, il y a l'idée que la quête du souverain bien ne passe pas forcément par la répudiation ou l'abjuration des honneurs. Et je voudrais savoir, moi, ce que, par exemple, les stoïciens peuvent en dire, en particulier Épictète dans son manuel, quand il dit vivre sans honneur, si vivre sans honneur est un mal, aucun mal ne peut arriver par la faute d'autrui, rien de honteux non plus. Est-ce que finalement Épictète et Spinoza n'entretiennent pas le même rapport aux honneurs, de la même façon que Sénèque ne se reproche pas à lui-même d'avoir de l'argent et considère qu'il reste sage?
Oui, je crois que dans ce texte,
un rapport pacifié, oui, finalement.
Dans le début, très à la fin de l'entendement, ce que dit le narrateur, et ça peut être Spinoza, mais ça peut être tout homme dans la mesure où il lit ce texte. Le rapport à ces biens du monde fini, ces biens périssables, est double. C'est-à-dire que dans un premier temps, si il faut s'en débarrasser, et ça je crois que Spinoza le maintient jusqu'à la fin, il faut s'en débarrasser en tant que fin absolue. Et il constate d'ailleurs que à un certain moment de l'itinéraire, on n'arrive pas à le faire. Mais il ne justifie pas du tout le fait qu'on n'arrive pas à le faire. Simplement, il n'arrivera à s'en débarrasser comme fin qu'à partir du moment où il aura suffisamment avancé, non pas dans la connaissance, mais, alors il utilise un autre terme, mais dans la méditation. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la méditation par rapport à la connaissance? Je pense que c'est la connaissance en tant qu'elle est vécue. C'est-à-dire dans la mesure où cette méditation prend de plus en plus d'empire à l'intérieur de son esprit, Donc, on repousse au second plan ces fins relatives que sont les honneurs, les richesses, les plaisirs. Et à ce moment-là, une fois qu'on les a refusés, abandonnés en tant que fin absolue, on peut non pas les revaloriser pour eux-mêmes, mais essayer de chercher ce que, en tant que moyen, ils peuvent faire d'utile.
De la même façon que chez Kant, il dit « Bon, le bonheur, ce n'est pas une fin digne de l'homme, mais ne pas être heureux peut être une grande tentation d'enfreindre ses devoirs. En somme, ça peut servir. »
Oui, mais alors, ce qui me paraît intéressant dans le texte, c'est que précisément, ce ne sont pas les biens de la vie courante eux-mêmes que Spinoza habilite comme moyen, mais au fond, ce qu'on pourrait appeler leur noyau rationnel. Il ne réhabilite pas la recherche des honneurs, il réhabilite la relation sociale, et la relation interhumaine. Dont finalement, la recherche des honneurs est la version imaginative, illusoire, etc. Il ne réhabilite pas la recherche d'argent pour lui-même, mais la recherche du minimum d'argent nécessaire pour préserver la santé, etc., etc. Et de même, dans les plaisirs, il ne réhabilite pas l'excès des plaisirs, mais ce qui est du plaisir nécessaire pour la santé, c'est-à-dire la continuation de la vie. Autrement dit, tout se passe comme si, dans ce qui apparaît à première vue comme, disons, les biens courants de la vie humaine, ce que la tradition morale, depuis au moins les stoïciens, peut-être avant eux, a repéré comme les trois buts de la vie humaine, a repéré pour les critiquer, pour les dénoncer, etc., etc. Spinoza les reprend, mais en disant, mais attention, la façon dont on les voit d'habitude est une façon illusoire. Il faut voir le noyau qui est à l'intérieur, qui lui est un noyau positif, parce que c'est un effet de loi de la nature, mais que précisément, nous ne voyons que sous forme d'image. Nous nous représentons les nécessaires relations interhumaines sous la forme
des honneurs, etc.
du pouvoir, etc., etc. Nous nous représentons la recherche de la santé sous la forme de la libido. Nous nous représentons la recherche des moyens de vivre sous la forme de la nécessité de la richesse. Donc, on pourrait dire qu'un des sens de ces buts traités à la forme de l'entendement, et je crois que ça reste dans l'éthique, c'est précisément au fond de dépouiller ces biens de ce qu'ils ont d'illusoire, d'imaginatif, mais que dans un premier temps, nous ne pouvons vivre que sous cette forme imaginaire, tout simplement parce que nous n'avons pas spontanément la connaissance réelle, la connaissance adéquate de ce que sont les choses.
Et puis parce qu'en attendant de l'avoir, il faut quand même bien vivre.
Oui, mais justement, nous vivons mieux une fois que nous l'avons.
J'ai dit bien vivre et non pas vivre mieux, Pierre-François Moromé. Alors, on pourrait considérer finalement que, parce que derrière ces débats qui peuvent sembler byzantins, il y a tout simplement deux attitudes possibles. La première attitude, c'est l'attitude de celui qui se dépouille de tout ce qu'il a pour parvenir à la sagesse, et en somme se dépouille de tout ce sur quoi il spécule, parce qu'il spécule sur une valeur supérieure, qui serait la sagesse, dont l'obtention serait quasiment automatique par le dénuement qu'il pratiquerait. De la même façon, d'ailleurs, celui-là étant le jumeau de celui qui s'enrichit, parce qu'il considère que la richesse équivaut au bonheur. La position d'en face, ce serait de dire, avant de se dépouiller, parvenons à la sagesse, et tout ce dont on aurait voulu se dépouiller au début nous semblera alors superflu. À la fin de l'éthique, Spinoza dit, la béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu même. Ça n'est pas parce que nous contrarions les appétits lubriques que nous jouissons d'elle, mais au contraire, c'est parce que nous jouissons d'elle que nous pouvons contrarier les appétits lubriques.
Oui, exactement. Il faut dire que chez Spinoza, le dénuement ne sert à rien. Il ne nous donne rien. Il peut être une conséquence. Le dénuement relatif à l'égard de certaines choses peut être une conséquence, mais il n'est pas du tout un moyen d'obtenir sagesse. C'est une philosophie anti-ascétique.
Mais est-ce que de ce point de vue, il n'est pas profondément d'accord avec les stoïciens qui considèrent finalement que l'essentiel, ça n'est pas d'être dans le dénuement, parce qu'on peut être esclave comme empereur et être stoïcien, sans problème, riche comme pauvre. L'essentiel n'est pas là-dedans, l'essentiel est dans l'aptitude à ne pas en dépendre.
À ce niveau-là, oui. À un autre niveau, non, parce qu'il y a aussi chez Spinoza une pensée politique qui est profondément anti-stoïcienne.
Et pour tout ça, il faut...
On peut parier que Daniel Balavoine n'avait pas tout à fait lu le manuel d'Épictète quand il a chanté cette chanson, puisque c'est quand même l'histoire d'un homme, Henri, le chanteur, qui suspend son bonheur précisément aux honneurs, à la félicité, à la gloire et au désir qu'il inspire. Pierre-François Moreau est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance pour clore cette semaine sur le stoïcisme et ses différences et des points communs. Après tout, comme dit Lévi-Strauss, il n'y a que les différences qui se ressemblent entre Spinoza et le stoïcisme. C'est sur ces différences donc que nous terminerons cette semaine en votre compagnie, Pierre-François Moreau. Alors, partons d'un point commun ou d'une ressemblance peut-être. Hein. Les stoïciens, bien souvent, en particulier Marc Aurèle d'ailleurs, mais avant lui aussi, même Épictète d'une certaine façon, ne cessent de dire qu'il s'agit de former des hommes qui soient capables de s'occuper des affaires publiques. Il y a une ambition politique à l'œuvre chez les stoïciens, et cette ambition politique, on la retrouve également chez Spinoza, quand il dit par exemple qu'il vaut mieux, quand on est un sage, vivre sous la loi commune que de vivre en ermite. Est-ce qu'il n'y a pas là, pour le coup, une sorte de préoccupation commune, une ambition politique commune, Pierre-François Moreau?
Non, pas du tout. Il y a bien une ambition politique chez les deux.
Je ne doutais pas de votre réponse. Allez-y.
Oui, je sais bien. La question était faite pour la susciter. Alors, reprenons les choses dans l'ordre. Ce qui me paraît intéressant, c'est, après tout, remontons un peu en amont. Pourquoi est-ce qu'on est toujours tenté de dire « Est-ce que Spinoza est stoïcien ?» Parce que, on l'a dit tout à l'heure, il y a des tas de choses qui sonnent stoïcien dans son langage, dans sa façon de parler. Pourquoi est-ce qu'il a il hérite de ce lexique, il hérite de ces raisonnements?
Pourquoi c'est sonorité, hein, c'est de la musique.
Même pour les contredire, pourquoi il reprend ça? Il faut bien voir que depuis le XVIe siècle, au moment où il écrit, donc depuis un siècle et demi, même un peu avant, il s'est développé une espèce de culture néo-stoïcienne. Il s'est développé avec Juste Lips, avec Guillaume de Vere, un stoïcisme chrétien. Il ne cite pas ces gens-là, mais visiblement, lui, ses amis, son public, lisent dans un univers pour qui les stoïciens sont des interlocuteurs.
Donc Spinoza avait besoin d'emprunter un lexique pour se faire entendre ?
Comme tout le monde. Personne ne crée le vocabulaire dans lequel il parle. Ce qu'on fait, c'est de créer un nouvel usage de ce vocabulaire. Mais par exemple, Spinoza, c'est quelqu'un qui ne crée pas de mots nouveaux. C'est un des rares philosophes qui ne cherche jamais à créer des mots nouveaux.
En revanche, il dit que les mots qu'il emploie ont un sens qu'on n'a pas l'habitude de retrouver chez
eux. Et ce nouveau sens est donné par la systématique même de sa pensée. Mmh. Mais cette systématique, elle se crée peu à peu, précisément. On ne le fait pas à partir de quel mot, c'est pas arbitraire.
Mais alors, dans quelle différence en termes politiques entre Spinoza et les stoïciens?
Ce qu'il faut voir, c'est que ce stoïcisme moderne, ce stoïcisme chrétien qui se développe pendant deux siècles, c'est entre autres un stoïcisme politique. C'est un stoïcisme qui est lié, entre autres, aux nombreuses guerres du XVIe et XVIIe siècle. Un stoïcisme qui consiste, d'une part, pour les sujets, à développer une attitude qui est celle de la constance. Comment supporter les périls, les révoltes, les guerres civiles, les misères. Et puis, du côté des gouvernants, aller chercher chez Sénèque, par exemple, des règles de gouvernement, des règles de sagesse qui permettent de former des bons gouvernants.
Rappelons pour mémoire que Sénèque était le précepteur de Néron. Évidemment, tous les professeurs ne réussissent pas dans leur tâche.
Mais au début, il a réussi. C'est-à-dire que certains des textes de Sénèque représentent, au fond, le programme politique de Néron à ses débuts. Or, je dirais que précisément, Spinoza, c'est celui qui, peut-être le premier, essaye de penser la politique en se débarrassant de l'idée de l'institution du prince. Pour lui, il ne s'agit pas de former des hommes pour gérer les institutions. Pour lui, le problème politique, c'est le contraire. Il s'agit de créer des institutions qui pourront gérer les hommes.
Pour dompter la multitude.
Ou pour que la multitude puisse dompter le prince. Mais finalement, dans les deux cas, ça revient au même. Il ne s'agit pas d'abord de transformer les hommes pour qu'ils soient vertueux, afin que la cité soit vertueuse. Il s'agit d'abord de créer une cité qui fonctionne bien, qui peut marcher, qui peut fonctionner, que les hommes qui sont dedans soient vertueux ou pas. Et c'est très probablement la cité qui va créer les conditions dans lesquelles un certain nombre d'hommes pourront devenir le plus vertueux possible.
Ça, c'est très étonnant. Parce
c'est
que
le contraire du platonisme politique.
Mais justement, parce que chez Spinoza, il y a quand même l'idée que, disons, la lecture de l'éthique a pour fonction ou pour vocation, et dans le meilleur des cas, elle y parvient, de changer son lecteur, de modifier son lecteur. Néanmoins, Spinoza ne fait jamais reposer une cité ou la construction d'une cité. Il n'a pas l'audace ou le tempérament suffisamment utopique, peut-être, pour faire reposer la construction d'une cité sur cette réforme de l'entendement qu'il peut susciter dans quelques cas très rares de lecture de l'éthique. Donc il y a chez Spinoza deux dimensions, une dimension politique et une dimension, j'allais dire, éthique. Et finalement, ces deux dimensions sont différentes, contrairement aux stoïciens, chez qui la politique est le prolongement de l'ontologie et de la morale, et ainsi de suite. On peut dire ça ?
Est-ce qu'on peut dire que Spinoza n'a pas l'audace de fonder la cité sur la forme de l'entendement ? Moi, je dirais plutôt, il a l'audace de ne pas fonder la cité sur la forme de l'entendement. C'est-à-dire qu'il a l'audace de dire, on n'a pas besoin que les philosophes soient rois. Et au fond, on pourrait dire que depuis 2000 ans, quand il écrit, tout le monde, d'une façon ou d'une autre, c'est pour ça que je parlais de platonisme politique, même chez les stoïciens, dit que ce serait mieux si gouvernants étaient sages. Et au contraire, la réponse de Spinoza politique, c'est de dire que ce qui est mieux, c'est d'avoir des institutions telles qu'on n'a pas besoin que les gouvernants soient sages. Une cité qui dépend de la sagesse de ses gouvernants est une cité qui, de toute façon, ira à l'échec. Alors, quant à dire le but de l'éthique, c'est que la lecture de l'éthique transforme les hommes en sages, j'en suis pas si sûr que ça. Au fond, le but de l'éthique, c'est de faire passer les hommes par un certain nombre de stades. Un de ces stades, au milieu de Éthique 4, étant le stade politique.
Éthique 4, pour mémoire, c'est le passage sur la servitude.
Mais il y a, alors bien entendu, à l'intérieur de la servitude, il y a au début les progrès de la liberté. Mais pour penser ces progrès de la liberté, Spinoza ne se croit pas obligé de les penser en termes purement individuels. Ou plutôt, pour penser les progrès de l'individu, il se sent obligé à un moment de mentionner le fait que les individus vivent dans des cités et que ces cités doivent être réglées d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est tout à fait étonnant. Au milieu de l'éthique, il y a la place pour la politique. Elle est marquée. Et on pourrait dire qu'au fond, le traité politique et le traité théologico-politique, c'est-à-dire les deux grands ouvrages politiques de Spinoza, ont leur place indiquée au milieu de la quatrième partie de l'éthique. Donc, au lieu de dire que Spinoza vise à former des sages et que peut-être ces sages pourront diriger la cité, il vaut mieux dire que Spinoza vise à transformer les hommes, y compris en les faisant vivre en cité, et que le fait de vivre en cité bien organisée a quelque chance de faire que le maximum d'hommes possible arrive vers la sagesse. C'est-à-dire que le rapport de la politique et de l'éthique est l'inverse de celui que l'on pense habituellement dans la tradition philosophique.
Et chez les stoïciens, en particulier chez Marc Aurèle, par exemple.
Absolument.
Alors, il faut le dire.
Le problème n'est pas
mots,
de former un bon empereur ou de former. Le problème, c'est d'abandonner l'illusion de l'institution du prince. On pourrait dire que toute partie de la politique occidentale, la philosophie politique occidentale, c'est le problème de l'institution du prince, de l'éducation du bon prince, etc. etc.
Oui, on retrouve ça dans les discours de Pascal sur la condition des grands.
Le spinozisme, c'est l'abandon et la critique de cette illusion. Pour Spinoza, un juge est un bon juge quand la structure de la justice dans un État est telle que le juge rendra de bon jugement, qu'il soit vertueux ou pas.
On retrouve ici une autre différence peut-être entre Spinoza et les stoïciens, qui est la question finalement morale, la place peut-être que les stoïciens accordent à la vertu, dont ils se font une idée assez précise en somme. Est-ce que en pensant une politique ou un système politique qui ne repose pas sur la vertu des hommes, Spinoza ne contribue pas donc à débarrasser la politique de la morale et finalement à rendre la politique à l'espace du droit?
Oui,
contrairement aux stoïciens, justement.
Tout à fait, à condition, évidemment, de comprendre que le droit, c'est la puissance. Et non pas la norme.
Il faut le traduire pour nos auditeurs, ça, Pierre-François Moreau.
Spinoza, chaque fois qu'il parle du droit, n'oublie jamais de dire « ius sive potentia », le droit, c'est-à-dire la puissance. Le droit, ce n'est pas une norme extérieure qui dit aux hommes comment ils devraient agir, c'est la puissance effective ou le jeu des puissances effectives. C'est-à-dire que Spinoza a une conception profondément polémique, profondément agonistique du droit. Le droit, c'est la lutte des puissances et leur résultat.
Le droit, c'est la lutte des puissances et c'est leur résultat. C'est l'entrelac, finalement, l'entrechoc des puissances.
Et les institutions, au fond, c'est le résultat, pour un certain temps, de cet entrechoc des puissances. C'est l'équilibre obtenu, si l'équilibre est obtenu, par cet entrechoc.
Il embrasse sa femme, et s'attendrissant un peu en ces tristes instants, il la prie, la conjure de modérer sa douleur. Pauline proteste qu'elle aussi est décidée à mourir. Elle appelle avec instance la main qui doit frapper. Sénèque ne voulut pas s'opposer à sa gloire. Son amour, d'ailleurs, craignait d'abandonner aux outrages une femme qu'il chérissait uniquement. « Je t'avais montré, lui dit-il, ce qui pouvait te gagner à la vie. Tu préfères l'honneur de la mort. Je ne t'envierai pas le mérite d'un tel exemple. Ce courageux trépas, nous le subirons l'un et l'autre d'une constance égale, mais plus d'admiration consacrera ta fin. » Ensuite, le même fer leur ouvre les veines des bras. Sénèque, dont le corps affaibli par les années et par l'abstinence laissait trop lentement échapper le sang, se fait aussi couper les veines des jambes et des jarrets. Bientôt, dompté par d'affreuses douleurs, il craignit que ses souffrances n'abattissent le courage de sa femme et que lui-même, en voyant les tourments qu'elle endurait, ne se laissât aller à quelque faiblesse. Il la pria de passer dans une chambre voisine. Puis, retrouvant jusqu'en ces derniers moments toute son éloquence, il appela des secrétaires et leur dicta un assez long discours, comme on l'a publié, tel qu'il sortit de sa bouche. Pierre-François Moreau, il faut qu'on en vienne à l'une des différences essentielles entre Spinoza et les stoïciens, ou peut-être un symptôme en tout cas de différence plus fondamentale, c'est la question du suicide. On pourrait penser d'ailleurs que du point de vue, alors pour mémoire, hein, Spinoza ne défend jamais l'hypothèse du suicide dans laquelle il voit un moment de servitude ou de soumission aux causes extérieures, alors que les stoïciens ont tendance, pour le dire rapidement, hein, à faire du suicide une reprise de sa liberté par un individu que le reste du monde contraint. Alors, dans ce débat, comment expliquer donc là encore ces deux systèmes qui se ressemblent, dont les sonorités sont si semblables, soit si différent sur cette question essentielle? En somme, comment se fait-il que les stoïciens fassent du suicide le modèle de la liberté, alors que Spinoza en fait le paradigme d'une aliénation ou de la servitude?
Pour Spinoza, il faut bien dire qu'on ne se suicide pas, on est suicidé. Quelqu'un qui se suicide, au fond, n'est pas dans une situation très différente de l'individu qui, par exemple, voit un autre individu prendre son épée et la lui enfoncer à lui dans le corps. Au fond, dans le suicide, il y a un retournement contre l'individu lui-même de forces qui sont en lui, mais de forces négatives. Donc, bien entendu, alors quelquefois on lit...
Ce qu'on peut trouver, d'ailleurs, la mort de Sénèque. Ouais. On dit que Sénèque a récupéré sa liberté quand il s'est suicidé, mais il était politiquement contraint à le faire.
De toute façon, s'il n'était pas suicidé, il serait mort sous la torture, ça n'aurait rien changé. Mais on dit quelquefois que Spinoza est hostile au suicide ou qu'il condamne le suicide. Mais arrêtez, pas du tout.
On peut très bien imaginer,
mais on peut très bien imaginer que pour Spinoza, l'homme guidé par la raison en vienne dans certaines circonstances à se suicider. Quand il comprend que les forces extérieures sont plus fortes que lui, quand il comprend que de toute façon, il n'a plus rien à gagner, plus rien à conquérir, etc. etc. Simplement, à la différence du stoïcien, lui, il se suicide sans s'en vanter. On pourrait dire... Le spinoziste guidé par la raison peut être amené à se suicider, mais en le faisant, il reconnaît que ce sont les forces extérieures qui le dominent. Il ne le voit pas comme un acte de liberté, mais comme l'aboutissement d'une nécessité.
Le fait que les stoïciens y voient un acte de liberté, témoigne-t-il en son fond, on en a finalement paradoxalement assez peu parlé, témoigne-t-il en son fond de la préservation, peut-être paradoxale chez les stoïciens, d'un libre arbitre à l'intérieur même de ce on en a parlé avec Frédéric Ildefonse,
hein, ouais.
Mais pas du nécessitarisme, du catéchone, quoi, du vivre comme il faut, vivre comme il convient, vivre conformément à la nature. Quelle place est laissée au libre arbitre quand il s'agit de vivre conformément à la nature? Quelle place est laisser à la liberté capricieuse d'un libre arbitre quand il s'agit de vivre de cette façon-là? Est-ce que finalement, chez les stoïciens, il n'y a pas une contradiction entre l'injonction morale de vivre selon la nature et le sentiment qu'avec le suicide, on redevient libre?
Je crois que pour, aux yeux de Spinoza, l'illusion stoïcienne du suicide, c'est la continuation logique de leur illusion de la liberté. Je pense que si on demandait à Spinoza ce qu'il n'a pas fait de faire un cours sur les stoïciens, il y aurait un certain nombre de points de crête qui seraient réunies, c'est l'illusion de libre-arbitre, l'illusion de la domination sur les passions, l'illusion du suicide. Dans les trois cas, l'individu a l'impression de dominer le monde extérieur, de ne pas être soumis aux lois de la nature. Et ce sont précisément les trois points sur lesquels Spinoza prend la peine d'expliquer sa différence avec le stoïcisme.
Personne, dit-il, à moins d'être vaincu par des causes extérieures et contraires à sa nature, ne néglige d'aspirer à ce qui lui est utile, autrement dit de conserver son être. Personne, par la nécessité de sa nature et sans y être forcé par des causes extérieures, ne répugne à s'alimenter, ou bien ne se suicide, ce qui se peut faire de bien des manières. Car l'un se tue parce qu'un autre l'y force en lui tordant la main qui par hasard avait saisi un glaive et en le forçant à tourner retourner ce glaive contre son cœur. Un autre, c'est le mandat d'un tyran, comme Sénèque, qui le force à s'ouvrir les veines, c'est-à-dire qu'il désire éviter par un moindre mal un plus grand. Donc, en d'autres termes, quand on se suicide, c'est précisément aux yeux de Spinoza, on pourrait le dire comme ça d'ailleurs, que nous n'avons pas le choix.
C'est une forme de servitude. C'est une forme de contrainte. Simplement, il fait en sorte de contrainte. Effectivement, dans le texte qui est cité là, ça peut être la contrainte physique, quelqu'un qui prend mon épée et qui m'enfonce dans le corps. Ça peut être la contrainte politique, l'ordre de Néron donné à Sénèque. Mais dans un cas comme dans l'autre, ce n'est pas du tout une preuve de libre-arbitre.
Mais alors, quel est l'argument des stoïciens pour justifier ou pour identifier le suicide à la liberté ? En quoi cet argument tient-il ?
Je pense que l'idée, c'est qu'à ce moment-là, celui qui prend la décision de supprimer sa propre vie montre par là qu'il n'est pas soumis aux lois de la nature, qu'il s'extrait des lois de la nature.
Donc il y a quand même chez les stoïciens l'ambition, plus encore que de vivre conformément à la nature, de s'extraire de la nature.
Tout à fait.
Il faudrait filmer vos mains, là, Pierre-François Moreau. Ce sont vos mains qui ont dit oui avant vous-même.
En ce sens, oui, mais en même temps, c'est quelque chose qui n'est pas très différent, encore une fois, de l'idée qu'on peut gouverner de façon absolue ses affects. On pourrait dire que le suicide, c'est la forme suprême d'imperium sur les affects.
La forme suprême d'une volonté ou d'une ambition de régler les affects. Ça veut dire que si on lit Spinoza...
C'est-à-dire la forme suprême d'une illusion.
Voilà, c'est ça. Si on lit Spinoza, l'illusion ou la servitude culmine dans le moment où je crois avoir acquis la maîtrise totale de mon destin par le geste létal que je m'inflige à moi-même.
Tout à fait. Tout à fait. Et en même temps, ce à quoi Spinoza aspire, enfin ce qui est indiqué dans la dernière partie de l'éthique, c'est effectivement aussi une puissance sur les passions, mais une puissance qui n'est pas absolue. Une puissance qui connaît toujours ses propres limites. Et, de façon tout à fait cohérente, à ce moment-là, Spinoza utilise un autre terme politique pour la désigner, mais qui n'est plus le terme imperium, qui est le terme potestas. C'est-à-dire, il ne dit plus l'empire absolu, il dit la puissance. Or, dans la pensée de Spinoza, la puissance est quelque chose de relatif. Donc, on peut effectivement gouverner en partie ses affects, on ne peut pas le faire totalement.
Et on peut gouverner en partie ses affects parce que finalement cela relève d'une activité, mais c'est un jeu. On ne s'extrait pas de ses affects pour les gouverner d'en haut. On est soumis à ses affects à l'instant où on les gouverne, ou plutôt on les éprouve pour les gouverner. On ne s'en affranchit pas.
Oui. On les éprouve et surtout on n'a pas l'illusion de pouvoir le faire n'importe comment par une simple affirmation de la liberté.
Un grand merci Pierre-François Moreau, on aurait pu rester des heures à parler avec vous de Spinoza, du stoïcisme ou du reste d'ailleurs. Je rappelle que vous êtes professeur des universités, comme on dit, à l'École Normale, LSH donc à Lyon, vous dirigez la section philosophie, vous êtes spécialiste de Spinoza, ça on l'avait compris. De vous, je signale, allez gagnons du temps, le reste sera en ligne sur notre site internet, Spinoza et le spinozisme, non pas le stoïcisme, et bien c'est le Que sais-je tout simplement, paru en 2007. Voilà, c'est la fin d'une semaine consacrée au stoïcisme dans les nouveaux chemins de la connaissance. On vous a parlé de Sénèque, de l'ancien stoïcisme, de la différence entre épicurisme et stoïcisme, ou bien entre l'esclave Épictète et l'empereur Marc Aurèle. La semaine prochaine, changement de décor, encore que, pas vraiment, car il leur doit beaucoup. Ce sera une semaine consacrée à Montaigne. Et lundi, en duplex, on accueillera Jean Pouilloux, qui nous parlera de la mort dans les essais.
Quant à moi, ça ne va plus très bien.
Du suicide à la mort, donc, dans les nouveaux chemins de la connaissance, à la technique aujourd'hui, Martin Delafosse, à la réalisation Cédric Ossir, évidemment, au travail de fond, Geneviève Méric, Adèle Van Rett, à qui d'ailleurs indirectement nous devons, enfin c'est à vous, Pierre-François Moreau, que nous devons d'ailleurs la présence d'Adèle Van Rett, vous êtes la cause efficiente de la présence d'Adèle Van Rett dans cette émission, pour le meilleur je dois dire, Jennifer Murzo, Florence Malfatto, Igor Kortolitsa, que nous n'avons pas fini de saluer tant son stage nous a été profitable à tous. France Culture, il est 17h50. Tout de suite, Albert Jacquard.